savez sans doute ce que vient de me dire mon excellente amie.
Les amis de
mes
amis.
Je veux être entouré de mes amis.
Sans où tes amis? J'en vois pas d'amis ici.
C'est comme ça quand je voudrais voir la télé. Je viendrai chez mon pote Paul.
C'est mon ancien collègue de bureau. C'est un sacré phénomène. Il a de l'or entre les mains. Enfin, il s'appelle Cédric Malonnet. C'était mon maître de stage, en fait, quand j'étais dans l'entreprise, quand j'étais en BTS. Professionnellement, il m'a tout appris, on va dire. Mais c'est surtout humainement, ce mec-là, il m'a marqué, quoi. Cédric Malonnet, il a une culture de cinglé. Il connaît plein de choses sur la culture bretonne et tout ça. Et puis, le truc qui est vachement bien, c'est qu'il adore partager tout ça, quoi. D'ailleurs, la musique klezmer, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert ça. En fait, il fait de la peinture, des tableaux très sympas, d'ailleurs. Il m'avait invité à son vernissage à la ferme de la Harpe. Et du coup, juste après ce vernissage, en fait, il y avait justement un groupe de klezmer qui jouait. Et je pense que c'était une révélation pour moi. Et puis c'est un mec qui a vraiment le cœur sur la main. On a passé vraiment des super bons moments ensemble dans le bureau à rigoler. Des fois un peu trop limite, mais bon, c'était vraiment...
Il est parti du taf
il y a 2 ans, je crois. Et maintenant, il s'occupe d'une association, ça s'appelle La Grange à Goules, qui promeut le répertoire oral de Bretagne, en fait, de Haute-Bretagne précisément. Il a l'air de bien s'épanouir là-dedans et je pense qu'il se ferait un malin plaisir à expliquer un peu en quoi consiste son taf. Avec lui, j'ai vraiment grandi, quoi. C'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est vraiment ça, quoi.
Quelle réaction à chaud.
On s'est rencontrés par le biais du travail et puis on a partagé notre bureau de 15 mètres carrés au moins 8 heures par jour, 5 jours sur 7, pendant 2 bonnes années. Forcément, ça crée des liens, ou alors c'est tout le contraire, mais enfin là, en l'occurrence, ça crée des liens. Pour le reste, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, mais je ferai pas de commentaire là-dessus. En tout cas, c'est très gentil de sa part et bon. Voilà, j'entends ce qu'il a dit, quoi. J'ai changé de boulot, effectivement. Je suis passionné par plusieurs trucs. L'art plastique, donc effectivement, je peins, je fais des affiches, j'ai quelques expos, tout ça, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, je peux aussi assouvir ma deuxième passion, c'est la culture populaire, enfin du moins de transmission orale en Haute-Bretagne. Donc tout ce qui concerne la musique traditionnelle de Haute-Bretagne, chansons, danse, les jeux, les savoir-faire, la langue, le galop en l'occurrence. Voilà. Donc j'ai travaillé dans une association qui s'appelle La Grange à Goules, qui est la maison du patrimoine oral de Haute-Bretagne. Donc on fait du collectage, des animations pour les enfants, pour les anciens, pour tout public, autour des danses, musique, chant, tout ce qui touche justement le patrimoine oral. Et on est situé à Parcé, en pays de Fougères. Le collectage, c'est d'aller recueillir la mémoire des anciens. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire ça après la guerre, parce que effectivement après la guerre, tout ce qui était tradition orale, tradition populaire a souffert. Ça, c'est un peu valable partout, hein, partout en France et ailleurs. Mais en l'occurrence, sur le territoire qui m'intéresse, moi, la Haute-Bretagne, donc après-guerre, effectivement, les anciennes traditions ont commencé à disparaître. Il fallait passer à autre chose après la guerre. Donc certaines personnes se sont dit, la culture est en danger, il faut aller collecter le savoir des anciens. Donc autant pour la musique, mais aussi les savoir-faire, les croyances, la langue...
Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé du bâtiment à la conservation du patrimoine ?
La vraie question, ça serait comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans le bâtiment ? Je crois que c'est
des questions à l'envers.
Non, mais c'est normal. Mais en fait, pour comprendre, faut plus prendre des choses comme ça. En fait, à l'adolescence, je viens d'une famille populaire. Hein. Mon père est d'ailleurs maçon, donc je connaissais le milieu du bâtiment. À l'adolescence... j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas le plus calme, ni le plus dissipé, mais enfin bon, bref, je savais pas trop quoi faire, je m'intéressais déjà à la musique, plutôt rock'n'roll à l'époque, et puis bon, voilà, je savais pas trop quoi faire, on m'a envoyé dans un BEP, dessinateur technique, quoi, si on veut, ensuite j'ai passé mon bac, BTS, puis j'ai trouvé du boulot tout de suite, donc Je l'ai fait par défaut un peu. Voilà, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai gagné ma vie, je regrette rien, j'ai appris plein de choses, hein, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré Simon, donc c'est formidable. Mais effectivement, au bout de 10 ans, j'en ai eu un peu marre. Là-dessus est arrivée la fameuse crise dans laquelle on vit tous actuellement. Donc les conditions de travail se sont un peu dégradées, l'ambiance aussi. Bon, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Et j'ai eu la chance, en fait, de trouver ce poste à la Grange à Goule, par biais de rencontres aussi, de personnes, quoi, tout simplement.
La chance n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle. Juste le talent.
Et juste le travail aussi.
Ah, ouais. Et la santé.
Ah oui. Et la chance.
La chance, vous avez raison.
Comment je me suis intéressé au patrimoine oral de Haute-Bretagne ? D'ici, je suis originaire plutôt du sud de Rennes, du sud de l'Ille-et-Vilaine. Bon, on va dire que jusqu'à mes 18 ans, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Je m'intéressais plus au Clash et aux Sex Pistols que aux chanteurs traditionnels et à l'accordéon diatonique et compagnie. Mais j'ai toujours baigné dans un milieu rural et traditionnel où on parlait galop. Où j'ai connu mes deux arrière-grand-mères qui étaient nées quand même à la fin du 19e. Elles sont mortes à la veille de leurs 100 ans. Donc en fait, quand elles sont décédées, je me suis rendu compte que à côté de moi, j'avais des personnes qui étaient vraiment d'une autre époque, avec un savoir immense, qui parlaient une langue, qui parlaient galop, mais qui parlaient vraiment un galop très... c'était pas un galop francisé, c'était vraiment du galop pur et dur, quoi. Qui vivaient à l'heure solaire, qui n'étaient pas du tout concernés par les supermarchés, la société de consommation. Bref, c'était un peu des extraterrestres, quelque part. Ça a été le premier déclic. Je me suis dit que j'étais passé à côté de quelque chose. Très peu de temps après, lors d'une saison, je devais avoir 17-18 ans, je travaillais dans des cultures de tabac à Bourbarré. Parce qu'à l'époque, il y avait des cultures de tabac là-bas. Maintenant, il n'y a plus depuis les nouvelles réformes européennes là, qui datent de 2005 ou 2006. Et à l'époque, donc, je faisais la saison dans les champs de tabac et j'ai rencontré un musicien traditionnel qui avait 10-15 ans de plus que moi, qui jouait du violon, de l'accordéon diatonique comme un dieu, la cornemuse, enfin tout un tas de trucs, qui chantait et puis qui connaissait le galop. Et quand je l'écoutais, ça m'était familier tout ça, quoi. C'est lui qui m'a expliqué que tout ça, ça faisait partie de quelque chose de logique, d'une culture, d'un patrimoine. Et petit à petit, je me suis en fait retourné vers mes propres racines, vers le savoir de ma famille, vers qui j'étais, d'où il venait, tout ça. Et petit à petit, je me suis aperçu que tout ça, c'était pas un truc de plouc, comme je pensais jusqu'à mes 18 ans, que tout ça, c'était très riche, intéressant. Et à partir de là, j'ai commencé à rechanter des chansons que j'avais entendues autour de moi, ou à recoser galop, à fouiner dans le lexique, à demander à ma grand-mère, à mon grand-père, comment on dit ça, comment on dit ci, qu'est-ce que ça veut dire ci, à chercher du vocabulaire. J'ai commencé à apprendre la musique traditionnelle. Et petit à petit, les années ont passé, et puis j'en suis arrivé là aujourd'hui, quoi.
Thank you.
concrètement, pour le collectage, vous allez chez les anciens et ils transmettent facilement, ou est-ce qu'il y a...
Ben, concrètement, on fait un peu comme toi, un enregistreur. On se présente chez les anciens. Alors, en général, on nous dit, tiens, il faut aller voir telle personne, ou alors, en allant voir des personnes, ils nous disent après, ah bah, allez voir le père truc ou la mère machin, qui, elle saura... plus vous causez de telles choses, ou elle connaît plus de chansons que moi, enfin voilà. Donc en fait, le tout, c'est de commencer, et puis petit à petit, après, en fait, de bouche à oreille, on arrive toujours à trouver des informateurs. Alors c'est vrai que c'est pas évident, c'est moins évident aujourd'hui, parce que les informateurs, ils sont de plus en plus vieux, donc il y en a beaucoup qui ont aussi disparu. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a eu des générations avant la mienne qui a fait beaucoup de collectage dans les années 70-80, voire les années 60. Mais aujourd'hui, on arrive encore à faire des trouvailles, enregistrer des chansons inédites ou des versions inédites, avoir des informations inédites sur... par exemple, récemment, on a découvert que dans le sud-est de l'Ille-et-Vilaine, là, du côté de Martigny-Ferchaud-Retier, on avait fait du paumé jusque dans les années 55-60, alors qu'on pensait que c'était seulement le nord de l'Ille-et-Vilaine qui avait conservé cette pratique un peu plus tard que certaines parties du département.
C'est quoi du paumé ?
Alors le paumé, c'est une sorte de beurre de pomme, de confiture assez dure qui se conserve à peu près un an, qui est faite à base de pommes douces et de cidre. On a une grande bassine, on fait bouillir du cidre, des pommes dedans, et ça bout plus ou moins, enfin suivant la quantité, de 12 à 24 heures. Et donc c'était souvent l'occasion... dans le temps de faire des veillées, quoi. Donc les gens se relayaient pour ramaouger ou meleiller, c'est-à-dire mélanger les pommes et le cidre. Donc ensuite tout ça commence à faire une pâte plus ou moins consistante. Et donc pendant que les gens tournaient, donc ils se donnaient le tour, hein, parce qu'il faut tourner sans s'arrêter et alimenter le feu, tout ça. Donc souvent c'était l'occasion pour les gens, les voisins, tout ça, de se réunir et de chanter, de danser, de se raconter des histoires, faire la fête, quoi. C'est une pratique qui a persisté jusque dans les années 50-60 dans le nord de l'Ille-et-Vilaine. Et en l'occurrence là, dans le sud-est de l'Ille-et-Vilaine, quelques villages ont pratiqué aussi ce genre de festivités jusque dans les mêmes années aussi. Et ça, on l'a découvert assez récemment.
Aussi. Donc en fait, vous êtes archiviste, vous êtes en même temps historien, chercheur, cuisinier,
animateur, musicien, chanteur, animé. Ouais,
en fait, voilà, tu fais tous les métiers du monde, quoi.
On fait pas tous les métiers du monde, mais disons qu'on essaie de bricoler un peu. On est un peu comme des bons bricoleurs du dimanche. Voilà, on sait un petit peu tout faire, un petit peu de plomberie, un petit peu de maçonnerie, un peu de peinture. Bon, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. On est un peu sur tous les fronts parce qu'on est obligé d'être sur tous les fronts. Nous, notre vocation, c'est pas de se focaliser uniquement sur la musique ou uniquement sur la danse ou la langue. C'est tout ça à la fois, c'est les savoir-faire, c'est la langue, la danse, la musique, c'est tout, quoi. Tout ce qui est oral, quoi. Croyances, les dictons. Qui a été redécouvert en Loire-Atlantique, hein, dans le pays de Guérande, la Brière, pays nantais, et aussi le nord de la Vendée, les marais bretons vendéens. Mais c'est une très vieille cornemuse, en fait, qui a failli disparaître.
Ça ressemble à quoi, en fait, une veuse ?
Ça ressemble à un biniou, mais avec un chalumeau beaucoup plus grand. Donc le chalumeau étant la partie où on met les doigts, l'espèce de flûte, là, si vous voulez. D'ailleurs, petite parenthèse, on pense que le biniou cause, qui est apparu à peu près au moment de la Révolution, là, à la fin du 18e, aurait certainement un ancêtre commun avec la veuse. Ils ont à peu près la même morphologie, sauf la taille du chalumeau. Le biniou-cause a un tout petit chalumeau, donc c'est très aigu, c'est fait vraiment pour jouer en duo avec la bombarde, en couple, on dit. Tandis que la veuse, on peut jouer tout seul, et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus grave, dû à la taille de son chalumeau, plus long. Ça serait, on pense, la cornemuse la plus proche de la cornemuse médiévale, hein, ce qu'on trouve sur beaucoup d'iconographies du Moyen-Âge et de la Renaissance. Je faisais déjà de la musique avant, mais plutôt du rock'n'roll dans des garages tout pourris avec mes copains à l'époque. Pendant des années, j'ai fait ça, même en parallèle de la musique traditionnelle. Peut-être que je le referai plus tard, j'en sais rien, là j'ai plus le temps, mais en tout cas, voilà, je renie pas du tout ça. Mais non, je me suis mis à la musique traditionnelle par goût, parce que ça m'a plu, et puis en plus, ça allait au-delà de jouer simplement de la musique, c'est qu'il y avait aussi, pour moi, un sens à sauvegarder le patrimoine, et puis à jouer les airs des anciens, qui ont été joués pendant longtemps, à jouer des instruments plus ou moins anciens aussi. Maintenant, avec de l'ancien, on peut faire du neuf, après, enfin, tout ça, c'est dans une logique qui n'est pas du passéisme, hein, on est bien d'accord, on n'est pas dans un écomusée, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la Bretagne, tu parlais de la particularité là, par rapport à Lyon ou d'autres régions, là, c'est qu'en Bretagne, avec du vieux, on sait faire du neuf, quoi. C'est-à-dire que la culture, elle est vivante, c'est pas que du folklore. Voilà, il faut vivre dans son époque, quoi. On va pas vivre avec des sabots aux pieds comme en 19e ou en 1900, quoi.
Du coup, c'est un équilibre facile à trouver.
Je crois que c'est pas difficile. Je pense que pour faire le bon écart, il faut bien connaître... Je pense la tradition est au courant vraiment des choses fondamentales, c'est-à-dire aller puiser vraiment dans le répertoire ancien, le comprendre son origine, l'histoire des instruments, l'histoire des danses globalement, voilà, avoir une idée des répertoires selon les terroirs et tout ça. Bon, ça je pense que c'est très important, mais grâce à ça, on peut se permettre de faire de la création. Hein, y a pas de souci, au contraire, quoi. Si on prend par exemple le groupe IMG, qui joue de la musique à danser de Haute-Bretagne, avec des couleurs reggae, rock, raga, donc une musique plutôt actuelle, tout en conservant les pas de danse, en chantant en gallo en plus, une langue d'Oïl, proche du français, que les anciens appellent le patois, et qui a longtemps été considéré, et encore d'ailleurs, comme un vulgaire dialecte de Plouc. Et le groupe IMG, c'est des gens qui sont pas habillés avec des bleus de travail et des bottes, hein. Ils ont des dreadlocks, des baskets, ils chantent du reggae, du raga, ils connaissent leur sujet, ils connaissent aussi la musique traditionnelle, ils ont fait un petit peu un mix de tout ça. Je crois que ça se passe plutôt bien pour eux et c'est tant mieux, quoi.
C'est pareil, c'est un hobby qui est relié aussi à la culture bretonne et
alors,
tout
la
ça,
peinture, ou c'est un non, autre hobby. Non, la peinture, c'était complètement à part. Alors la peinture, ça fait très longtemps aussi, mais j'ai commencé à exposer en 2003. Donc là, j'ai fait une petite pause parce qu'on peut pas tout faire, on peut pas être partout, mais voilà, j'ai fait quand même pas mal d'expositions en Bretagne, en Normandie. Enfin bon, j'ai fait quelques affiches de festivals, divers trucs, divers projets. La peinture, là, c'était vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir avec la culture traditionnelle bretonne. C'était beaucoup plus large. Néanmoins, ça m'est arrivé quand même de faire le lien. J'ai fait une expo avec des peintures sous-titrées en gallo, par exemple. C'était pour le festival Skeuden Bro Roison, il y a 2 ans, peut-être, ou 3 ans. J'avais exposé à la harpe dans le cadre du festival, mais sinon c'est complètement indépendant, quoi. Depuis tout petit, j'aimais dessiner, gribouiller, voilà. Au collège, je prenais la porte parce que au lieu de copier les cours, je dessinais sur mes cahiers, et puis bon, voilà, j'ai toujours continué. Et en fait, pour en revenir au bâtiment, ce que j'aurais aimé faire au départ en sortant du collège, c'était plutôt me diriger vers quelque chose type art appliqué, ou après dans la famille dans laquelle j'ai grandi, c'est pas des choses qui sont très, très bien vues, dans le sens où être un artiste, c'est pas un vrai métier, tout ça. Donc bon, à l'époque, On m'a dit, bah, du dessin, bah, tiens, dessin technique, comme ça tu feras du dessin, puis tu pourras trouver un métier.
Dessin utile.
Dessin utile, ouais, on pourrait résumer ça comme ça. Bon, voilà, donc, bon, à 15 ans, tu sais pas trop, et puis j'ai suivi un peu le mouvement, et puis voilà, c'est tout, je regrette rien. Hein, pour combler le manque, j'ai toujours continué à dessiner, à peindre, à gribouiller, et puis en 2003, l'amoureuse de l'époque m'a poussé, m'a dit, bah, tiens, là des toiles, là des pinceaux. Et puis voilà, fait des trucs, j'ai fait des trucs, puis on m'a dit, bah tiens, là, il y a un festival, c'est bon, tu peux aller exposer tes croûtes, voilà, près de Paimpol, machin, tout ça, bon. Ouais. Puis ça a commencé comme ça, quoi. Et puis, puis c'est tout, hein. Après, j'ai suivi le mouvement, on m'a redemandé des expos, j'ai continué à peindre, puis j'ai rencontré des gens, puis voilà. J'ai toujours fait les choses comme ça, en fait, par le biais des rencontres, en fait.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour.
Mais il y a un style bien particulier quand même à tes peintures. Donc c'est... Le style de mes peintures, oui, c'est toujours... c'est souvent des personnages, quoi. C'est assez figuratif, quand même, contemporain, mais toujours des personnages. J'aime bien les gens, j'aime bien... J'ai beaucoup peint les gitans, les tziganes, leur musique, leur mode de vie. C'est des choses qui m'ont pas mal passionné pendant un moment.
Parce que c'est aussi une culture orale.
Non mais tout à fait, complètement même, complètement orale. D'ailleurs, eux pour l'occasion, ils connaissent pas trop leur histoire. C'est assez compliqué. Mais c'est un sujet qui m'a touché parce que quand j'étais ado et quand on glandouillait avec les copains dans les arrêts de bus, qu'on n'avait pas de bus à passer pour nous emmener à Rennes et tout ça, bah ouais, on squattait en groupe dans les arrêts de bus, on fumait des cigarettes, bref, on écoutait de la musique, on se racontait des blagues, on passait le temps, quoi, la vie d'ado. Et bien souvent, l'été, il y avait une famille de gitans qui venaient dans le village dans lequel j'habitais, et c'était des roulottiers, en fait. Ils avaient gardé leur mode de vie à l'ancienne, avec des roulottes, des chevaux, et ils restaient là un certain temps. Et ils faisaient de la vannerie, Et ce qui était marrant, c'est qu'ils chassaient encore le hérisson, par exemple. C'était comme un sacerdoce pour eux, de conserver ce mode de vie à l'ancienne. Et pas de ressembler à d'autres familles qui roulaient en grosse cylindrée, grande caravane. Ils se sentaient pas concernés par ce type de nomadisme. Et donc voilà, ils connaissaient encore le romanès, donc la langue tzigane. Il y avait même un violoniste dans le lot. Enfin bon, c'était intéressant, quoi. Et c'était assez exotique pour nous. Ça m'a pas mal marqué, quoi. On a partagé des bons moments avec eux.
Tu penses qu'il y en a encore des gens comme ça ou
Oui, il y en a certainement encore, bien sûr, mais il y en a peu, quoi. Évidemment, c'est un peu... Bon, ça envoie des perditions aussi, certainement, quoi. Les tziganes qu'on a pu rencontrer, nous, à l'époque, ils sont nés là-dedans. Ils savaient même pas trop d'où ils venaient. Enfin, ils avaient tous des histoires assez rocambolesques, mais... c'était leur mode de vie, c'était comme ça, et, ils se posaient même pas la question, de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, même si on a passé du temps avec eux, jamais on s'est senti accepté non plus dans leur communauté. Il y a toujours eu... c'est quelque chose qui est quand même... On restait des gadjos, hein. faut quand même... c'était pas parce qu'on buvait des coups avec eux, qu'on mangeait à leur table et qu'on partageait du temps, qu'ils nous montraient comment ils allaient panier et tout ça, que ça y est, on faisait partie du clan, quoi. Pas du tout.
C'est la subtile nuance entre partage de tradition et intégration.
Exactement. Et c'est comme ça. Nous, ça ne nous posait pas trop de problèmes, hein, de toute façon, voilà.
Ouais. Alors du coup, un accordéon diatonique, c'est-à-dire quand tu tires, ça fait une note, et quand tu pousses, ça fait
exactement.
Une note.
Exactement. C'est un voilà, c'est un système bisonore, un peu comme l'harmonica. Hein, c'est la même famille. Ici, sur un bouton, si je fais l'expérience, là, je vais pousser. Là, je vais tirer. Voilà. L'accordéon diatonique a eu un succès parce qu'à l'époque moderne, pas cher, on avait vite du résultat avec et puissant. C'est-à-dire qu'à tout seul, on pouvait faire l'orchestre. Quoi. Il y avait l'accompagnement, la mélodie. Et par rapport à un violon, par exemple, bah, ça envoyait un peu plus quoi, au niveau sonorité. Donc c'était bien en plein air et tout ça. Tiens, je vais vous jouer une petite mazurka pour finir. Une mazurka qui a été collectée auprès de Georges Franboeuf de Saint-Ouen-la-Rouairie. C'est un village au nord-ouest de Fougères. Donc, ça a été collecté par Pierrick Cordonnier, l'actuel président de la Grange à Goules. Donc voilà ce que pouvait jouer par exemple un ancien du pays de Fougères pour faire danser. Donc ça, c'est une mazurka. Moi, la prochaine fois, moi, je vous conseille d'aller chez mon ami Dany Le Basque et sa femme Émilie, qui tiennent un café de pays qui s'appelle La Bicyclette, à La Boixière, donc à 20 km au nord-est de Rennes, près de Liffré. Ils font des super assiettes basques, ils ont de la bière bretonne artisanale, donc de la Sainte-Colombe en l'occurrence. Et donc ils organisent pas mal de choses comme type concert, soirée bœuf, en tout genre. J'allais boire mon café, lire mon journal là-bas parce que j'habitais le village. J'ai habité là-bas 5-6 ans et eux ils se sont installés à peu près en même temps que je me suis installé aussi. J'étais client, eux ils travaillaient et puis Dany est musicien, Émilie est fan de théâtre et de musique, ils aiment la culture, ils sont ouverts, donc
forcément,
ça crée des liens, ouais. Et puis on a organisé des trucs ensemble dans le bar et tout ça, donc c'est un lieu très convivial, très familial, un vrai bistrot qui vaut certains bistrots, j'allais dire, un peu fréquentés à la mode, tendance entre guillemets de Rennes. Sauf que là, on est à la campagne. C'est de l'authentique et c'est un privilège pour les gens qui habitent la Boixière et les environs d'avoir un café comme ça près de chez eux.
Merci Cédric de nous avoir accueillis à la Grange à Goules en dépit de notre demi-heure de retard. Merci à vous d'avoir suivi cette étape de notre pérégrination sonore, la première de 2013. Vous pourrez évidemment la podcaster comme les deux précédentes sur le site de Radio Campus Rennes en attendant de découvrir la prochaine escale le mois prochain.